On commence par ce nouveau préavis de grève qui pourrait tomber. On ouvre ensuite un gros dossier environnement du côté des épaves de bateaux et des fermes perlicoles. Le journal de 7h, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
La FRAP devrait déposer un nouveau préavis de grève aujourd'hui.
Oui, le syndicat majoritaire dans la fonction publique territoriale milite toujours pour la revalorisation du point d'indice. Elle avait mis fin à son mouvement le 11 décembre dernier, après 5 jours qui avaient fortement perturbé les vols inter-île, en raison notamment de l'affiliation de 150 pompiers affectés aux aéroports gérés par le pays. La centrale syndicale avait obtenu l'assurance d'une revalorisation de 10 à 20 points de l'indice des fonctionnaires de catégorie D, mais le Conseil supérieur de la fonction publique n'avait validé qu'une revalorisation de 5 points quelques jours plus tard. Une dernière réunion avec le président du pays et la ministre Vanina Krolas le 26 décembre avait été boudée par la FRAP qui accusait la présidence d'avoir prévenu les médias pour la mettre en difficulté aux yeux de l'opinion. Elle pourrait donc déposer un nouveau préavis de grève, c'est attendu pour aujourd'hui. Si le mouvement se confirme, il aura forcément un impact sur la rentrée scolaire, alors que les élèves des îles doivent regagner leurs établissements pour le 13 janvier. En l'absence de Moëtei Broserson qui part le 11 pour Paris, où il doit rester plus d'une semaine, cela compliquera sans doute un peu plus les discussions.
Cette question désormais, est-ce la fin des épaves, des vieux bateaux de pêche et des anciens navires de plaisance qui polluent le port de Papeete?
Alors difficile d'avoir des chiffres précis. Selon les derniers recensements, le port autonome abrite une cinquantaine de navires abandonnés ou en fin de vie. La filière de déconstruction se met en place. On écoute Stéphane Pérez, le président du cluster maritime de Polynésie et PDG du chantier naval du Pacifique.
La filière se met en place, le tissu industriel local existe, il est structuré, il a la compétence locale à la fois pour la partie déconstruction, la partie dépollution et la partie traitement des déchets, que ça soit en local ou en export vers la Nouvelle-Zélande. Maintenant, les problématiques qui restent encore à lever sur certains dossiers sont un problème de foncier, où on effectue ces opérations de dépollution, démantèlement et recyclage des déchets, et un problème de financement, puisqu'effectivement, il faut bien trouver quelqu'un qui paye pour déconstruire ces bateaux.
Au début d'année, la société de Stéphane Pérez, en partenariat avec Enviropol, a remporté l'appel d'offres du port autonome pour démanteler et recycler l'Oiseau des îles. Les deux sociétés, toujours en groupement, ont répondu à un nouvel avis d'appel à la concurrence du port, publié en septembre. Il porte cette fois sur la décomposition de 5 lots de bateaux et de déchets de ponton. Et les deux sociétés comptent aller plus loin, notamment Enviropol, qui monte Ecopol. Il s'agit d'un centre de démantèlement métallique dédié plus particulièrement à des navires hors d'usage, dont l'investissement s'élève à 850 millions de francs. Un terrain de 5 hectares a déjà été identifié du côté de Taravao. Ecopol pourrait débuter l'exploitation fin 2026 et ainsi créer une trentaine d'emplois.
Environnement toujours, on s'intéresse aux déchets plastiques dans la perliculture.
Oui, la deuxième ressource propre du fénois est elle aussi une menace pour les écosystèmes marins. Maëva Goulet, doctorante de 30 ans, a consacré 4 ans de recherche à cette question. Dans sa thèse, elle examine l'impact des plastiques perlicoles sur les lagons et propose des pistes pour rendre cette activité plus durable. Elle a donc mené plusieurs expériences sur 4 atolls des Tuamotu, Takapoto et Takaroa, où la perliculture est bien implantée, mais aussi sur Tikeho et Ana, 2 atolls peu ou pas concernés par cette activité. Et l'un des volets de ses recherches porte sur la croissance des huîtres perlières. Elles ont donc été réparties en plusieurs lots et immergées sur chaque atoll pendant 6 mois. Et en analysant la quantité de plastique présente dans les huîtres et dans l'eau, un résultat inattendu est apparu.
Ça nous paraissait bizarre. Au départ, on ne pensait pas avoir ce résultat. Donc en gros, on avait effectivement des huîtres qui n'avaient pas la même croissance, mais elles contenaient la même, on va dire, quantité de plastique. Donc on a essayé de creuser un petit peu plus loin. Et on a remarqué que plus l'huître contenait des fibres de cellulose, moins sa croissance était importante. Et en fait, cette cellulose-là, elle peut être naturelle, parce qu'on sait, par exemple, dans les Tuamotu, il y a beaucoup de cocoteraies, donc là, on ne peut rien y faire. Mais il y a aussi un gros apport anthropique, donc qui vient des hommes, et qui pourrait être dû au rejet des eaux usées, notamment des eaux de machines à laver dans le lagon.
Et au-delà de la contamination directe des huîtres, Maëva Goulet s'est intéressée aux effets biologiques des plastiques perlicoles sur d'autres espèces marines. En utilisant des tests larvaires, elle a observé le développement des œufs de 5 espèces. Et les résultats sont clairs, certaines larves présentent des anomalies ou des retards de développement. La doctorante insiste donc sur la nécessité d'identifier les additifs chimiques les plus toxiques parmi ceux utilisés dans les collecteurs et cordes de perliculture.
Il y en a qui sont sûrement inoffensifs, mais il y en a qui doivent être très toxiques. Donc l'intérêt, ce serait maintenant d'identifier les composés toxiques et idéalement d'en interdire l'utilisation pour des matériaux qui sont voués à finir dans l'eau en fait. Donc déjà ça ce serait un gros pas de pouvoir vraiment limiter, réglementer les additifs utilisés dans les matériaux plastiques, perlicoles, aquacoles.
Et enfin un autre volet de la thèse explore cette fois les effets biologiques des déchets plastiques sur les lagons.
Les bactéries, c'est extrêmement important pour les écosystèmes marins, mais c'est vrai qu'on en prend rarement conscience parce que bon, bah, c'est invisible, c'est un petit peu le compartiment oublié, mais c'est extrêmement important. Du coup, on a voulu voir ça, donc on a suivi pendant 2 mois toutes les bactéries que tu avais dans les aquariums et on s'est rendu compte que dans l'aquarium qui était très pollué en plastique, il y a des bactéries qui étaient favorisées. Donc, et on a vu que dans la littérature, certaines de ces espèces pouvaient être pathogènes.
Voilà, pour Maëva Goulet, il est donc urgent de réglementer l'importation et l'utilisation des plastiques perlicoles en contrôlant leur composition chimique. Il faudrait aussi réduire les quotas actuels qu'elle juge extrêmement élevés, mais aussi mettre en place des campagnes systématiques de récupération et de traitement des déchets issus de la perliculture.
Il est 7h06, on parle d'abonnement à la fibre maintenant.
Oui, puisque l'association des consommateurs Tetiara accuse l'autorité polynésienne de la concurrence de ne pas avoir traité la saisine déposée en octobre 2021. Elle portait sur les pratiques Donati qui, vous le savez peut-être, obligent les abonnés à la fibre à continuer de payer une ligne téléphonique du réseau cuivre. L'association avait aussi déposé une pétition 1 an plus tard. Elle regrette donc que l'autorité polynésienne de la concurrence ne l'ait pas traitée. Pour Tetiara, l'autorité polynésienne de la concurrence se moque donc des consommateurs polynésiens et de leurs représentants.
Et puis un tour en Nouvelle-Calédonie pour terminer.
Oui, après la chute du gouvernement indépendantiste de Louis Mapou le 24 décembre provoquée par la démission collective du parti Calédonie Ensemble, un nouvel exécutif va lui succéder ce matin. L'élection est attendue au Congrès, l'équivalent de l'Assemblée calédonienne. Pour atteindre le quorum, il faut qu'au moins 33 des 54 conseillers soient présents dans l'hémicycle. 4 listes ont été déposées, plusieurs alliances ont été nouées entre les différentes formations politiques. Si tout se passe selon les prévisions, la présidence devrait atterrir dans les bras d'un élu loyaliste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30 pour la revue de presse d'actualité locale.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.